Nicolas Chéron, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes stratégiste chez CMC Markets. On va parler avec vous, bien sûr, de ces marchés, des perspectives. J'ai envie de vous, pour première question, vous demander, est-ce qu'il faut changer toute sa stratégie d'investissement vu ce qui s'est passé au cours du mois de janvier 2016?
Il va falloir, je pense, l'adopter du moins. Les marchés changent. Nous ne sommes plus dans le même environnement dans lequel nous avons été ces 6-7 dernières années. Nous avons eu ces 6-7 dernières années des marchés qui étaient soutenus, qui étaient principalement administrés par les banquiers centraux, et également soutenus par des perspectives haussières macroéconomiques qui sont malheureusement rarement venues. On a encore des espoirs microéconomiques, mais j'ai l'impression que nous sommes désormais dans un marché neutre, particulièrement neutre depuis maintenant 6-8 mois, voire baissier. En tous les cas, à la limite de basculer dans un marché de peur et de répéter peut-être des scénarios que nous avons vus en 2008 ou en 2001. Donc il faut être prudent, être sur ses gardes.
On a entendu des hedge funds célèbres, mais c'est leur boulot de dire qu'on était dans cet environnement qui ressemblait à 2008. Bon, ça, c'est le boulot d'un hedge fund d'aller contrôler la Chine. On a vu des hedge funds contre le yuan chinois. C'est leur rôle, mais est-ce qu'on ne se fait pas un peu trop peur, justement?
Pour le moment, il y a plus de peur que de mal. N'oublions pas que d'un marché baissier à un marché, d'un marché haussier à un marché baissier, il y a la neutralité. Neutralité à la suite de laquelle on peut même sortir par le haut, si vraiment les banquiers centraux réussissaient leur mission de soutien des indices. Pour l'instant, il n'y a pas eu de mal. Il faut, je pense, garder en tête les seuils atteints l'été dernier. Nous avons l'été dernier un SP500 qui a testé les 1800-1820 points. C'est une barrière psychologique et technique énorme. Cette barrière a été retestée le 15 janvier et pour le moment, elle tient bon. De la même façon sur l'Eurostoxx, le CAC et le DAX, en prenant les plus bas approximatifs de l'année dernière, la zone des 9200-9300 points sur le DAX ou la zone des 4000-4100 sur le CAC. Ce sont des zones de moyen terme, techniques très importantes. D'ailleurs, tellement importantes que les banquiers centraux sont sortis du bois pour les défendre, et pour le moment, elles ne cassent pas. Donc n'allons pas trop vite en besogne.
Alors, justement, du côté des banquiers centraux, si on regarde les États-Unis, finalement, cette hausse des taux, elle était attendue, elle est arrivée tardivement, mais elle aurait dû vouloir dire que l'économie américaine allait mieux, puisque la Banque centrale, effectivement, la Réserve fédérale, remontait ses taux. Aujourd'hui, il y a des doutes à nouveau sur l'économie américaine?
Vous savez, je crois me rappeler que lorsque nous avons fait la première interview ensemble, il y a un peu moins d'un an, nous avions déjà évoqué ce problème du retard de la Fed par rapport aux perspectives économiques américaines. On constate bien que la Fed s'est forcée fin 2015 à monter les taux pour ne pas perdre la face, si je puis dire. Et on voit bien maintenant que la Fed botte en touche. Les chiffres du chômage à venir, d'ailleurs, ce vendredi et puis le mois suivant seront d'importance car nombreux macroéconomistes anticipent peut-être un haut de cycle sur le marché américain, peut-être un retournement négatif des chiffres. Et donc cela sera vraiment à suivre car il se pourrait qu'enfin les États-Unis ralentissent.
Alors le vrai sujet aussi qui a préoccupé les investisseurs, c'est finalement ce crack, si on peut parler d'un crack sur les marchés de matières premières et notamment sur le pétrole, parce que au-delà des aspects géopolitiques qu'on a du mal à maîtriser, il y avait quand même une inquiétude en se disant finalement si ces matières premières ne valent plus rien ou quasiment, ça veut dire que derrière l'économie mondiale est quand même en faible croissance.
C'est le risque, c'est effectivement le risque, un ralentissement global. C'est déjà un risque qui a été mis en exergue par certaines instances, comme la Banque mondiale, qui a révisé à la baisse ses prévisions. Le FMI devrait lui emboîter le pas avant que les États et les banques comment dire, les banques de chaque zone le fassent. C'est quelque chose qu'on a vu se passer en 2014, c'est quelque chose qu'on a vu se passer en 2015, et je pense qu'en 2016, donc, on va se rendre compte au fur et à mesure de ce ralentissement économique. Et puis, vous parliez de la baisse des matières premières, ce fameux alignement des planètes qui devait sauver l'Europe, donc cette baisse de l'euro conjuguée aux baisses du pétrole. Le problème, c'est que la baisse de l'euro, elle a plus ou moins été absorbée. Quand vous avez tous les banquiers centraux qui font la même chose, eh bien, ça annule l'effet positif que pourrait avoir une banque centrale par rapport à ses pairs. Et puis par rapport au pétrole, on se rend en fin de compte, et là aussi je pense que c'est un sujet que nous avions évoqué, qu'un pétrole qui baisse de 30%, c'est bien, mais qu'un pétrole qui perd 80%, eh bien cela engendre des suppressions d'emplois par centaines de milliers. Et ça engendre aussi un risque sur le high yield, puisque nous avons aux États-Unis pas loin de 250 milliards de dollars de prêts qui sont attenants à l'économie du shale oil, donc tout ce qui est pétrole et gaz de schiste. Et ces sociétés-là se retrouvent vraiment dans une situation historiquement difficile. On pourrait faire peut-être un petit parallèle avec les subprimes. Vous voyez, c'est plus ou moins le même système qui met en danger les banques. Et on verra en 2016, donc justement, si elles tiennent le choc, si le pétrole leur permet de se reprendre, ou si au contraire, nous allons avoir une année de neutralité sur les matières premières qui pourrait être fatale à certaines sociétés.
Il y avait un argument assez fort sur pour aller sur ces marchés actions, c'était le rendement, bien entendu, par rapport au marché obligataire, par rapport effectivement donc à d'autres marchés. En 2016, du coup, est-ce qu'il y a encore un argument en faveur des actions, puisqu'on a parlé de ce début d'année, il fallait peut-être changer sa stratégie d'investissement. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'on peut encore faire des choses sur les actions et quelle manière?
Je pense que nombreux fonds d'investissement, notamment en France et en Europe, sont contraints par la loi, par l'aspect législatif, sont obligés d'être principalement à l'achat sur le marché actions et sont donc un petit peu bloqués. Par contre, le particulier, lui, a le choix. Il a le choix de ne pas être investi. Quand vous écoutez actuellement les médias, on a peur de l'Asie, on a peur des États-Unis, on a encore peur des émergents. Il est trop tôt pour revenir sur certains dossiers massacrés. Par contre, vous vous rendez compte que l'Europe est mise en avant comme un Eldorado. En fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est que l'Europe est la moins pire des zones économiques. C'est celle dont on a le moins peur par rapport à des baisses de profits, une éventuelle récession, etc. Et donc, par dépit, par défaut, les investisseurs, du moins les fonds d'investissement, se retrouvent contraints de dire que l'Europe est géniale et qu'ils vont investir dans cette zone-là. Le particulier, lui, n'est pas obligé d'être en position. Après 5-7 ans de hausse, on peut aussi choisir de botter en touche et de se donner le temps, de donner le temps au marché de digérer les fondamentaux et de voir ce que cela donne dans les mois à venir, avant éventuellement de profiter d'un repli assez conséquent des marchés pour pouvoir se repositionner.
Donc quelque part, c'est plutôt aujourd'hui ce que vous dites, c'est-à-dire d'avoir cette position de cash, bon, qui rapporte rien du tout ou peu de choses, mais qui permettra dans des moments de peur comme on a pu connaître en janvier, il y en aura peut-être d'autres dans les prochains mois, de se reconstituer un portefeuille à meilleur prix.
Le cash en fin d'année 2015 était l'actif le plus rentable. Les actions baissaient, les rendements obligataires baissaient et le cash is king dans ce type de période. Donc c'est typiquement des phases de marché où il faut se donner le temps, garder du cash, sélectionner ses dossiers. Vraiment, la sélectivité sera d'importance en 2016, je pense. Et alors mettre à profit une correction de marché sera une bonne chose pour le particulier. Il sera content de voir les actions baisser plutôt que de subir la baisse de plein fouet comme la majorité.
Merci Nicolas Chéron.
Merci.